Il y a des personnes donc atteintes de trisomie 21 qui ont en fait un chromosome en trop, un chromosome supplémentaire dans la paire 21 des chromosomes. Et ce chromosome en trop a des effets dont l'effet le plus important est la déficience intellectuelle. Ils ont des capacités cognitives qui sont en général moins déployées que celles de la population ordinaire. Et puis, ils ont aussi quelques caractéristiques morphologiques. On connaît leurs yeux un peu en amande, leur petit nez, voilà, des caractéristiques physiques. Et puis, ils ont parfois aussi tel ou tel surhandicap, c'est-à-dire, par exemple, une cardiopathie, un problème au cœur ou des problèmes articulaires. Alors aujourd'hui, heureusement, on accompagne et on suit très bien sur le plan médical ces surhandicaps.
Je lisais que la trisomie 21 est la première cause de déficit mental d'origine génétique. Vous pouvez me donner un peu plus de détails?
Alors effectivement, la trisomie 21 touche une conception, un bébé conçu sur 700 à 1000, et cela partout dans le monde. Donc c'est une prévalence relativement importante et qui est d'autant plus grande que la mère, au moment de la conception, enfin au moment où elle attend le bébé, c'est d'autant plus important que la mère est âgée. C'est relativement fréquent chez les très jeunes mères, c'est-à-dire les mères de 15 ans, 16 ans, et puis chez les mères qui ont plus de 35 ans, la prévalence est plus importante, plus de 38 ans encore un peu plus, plus de 40 ans et encore un peu plus. Ce qui fait une moyenne donc de un bébé conçu sur 700 à 1000.
Donc, c'est un chiffre assez important tout de même, hein?
C'est un chiffre qui montre en effet que la trisomie 21 est une maladie qui nous concerne tous parce qu'on peut tous avoir autour de nous ou chez nous ou nous-mêmes un enfant dont on découvre qu'il est atteint de trisomie 21. C'est un sujet important dont nous devons tous nous préoccuper et l'accueil de ces personnes et l'accueil des familles aussi doit être une préoccupation bien réelle pour nous tous et notamment aussi pour nos gouvernements.
La fondation Jérôme Lejeune est basée à Paris. Donc, quel est un peu votre rôle et votre travail au niveau de la trisomie?
En fait, Jérôme Lejeune, le professeur Jérôme Lejeune, qui d'ailleurs a été connu aux États-Unis où il a fait beaucoup de conférences, il a reçu aussi le prix Kennedy pour sa découverte de la cause de la trisomie 21. C'est lui qui avait identifié, dès le tout début de la génétique, en 1958, il a identifié la cause génétique de la trisomie 21. À l'époque, on pensait que c'était une maladie peut-être héréditaire, liée à des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité. Et le fait de découvrir sa cause a été une révolution. Et puis, ce professeur Jérôme Lejeune avait recherché la cause de la maladie pour la traiter, pour la soigner, ce qui paraissait fou à cette époque-là, bien sûr. Et ce professeur Jérôme Lejeune, il est mort en 94. Et en 96, sa famille, ses amis, son entourage, tous les gens qui l'avaient écouté parce qu'il a donné des conférences partout dans le monde, ont adressé des dons pour que la famille crée une fondation Jérôme Lejeune, ce qui a été fait. Et cette fondation poursuit exactement l'œuvre de Jérôme Lejeune, c'est-à-dire que nous faisons de la recherche pour mettre au point un traitement de la trisomie 21 et d'autres déficiences intellectuelles d'origine génétique. Nous avons une consultation médicale spécialisée et nous recevons des milliers de patients, enfants et adultes, atteints de l'une de ces maladies. Et puis, nous défendons la vie et la dignité de ces personnes dans la société pour qu'on accepte de les accueillir, de les accompagner, de faciliter pour eux l'insertion dans la vie sociale. Alors, il faut savoir qu'on vient de créer, on lance juste maintenant une fondation Jérôme Lejeune aux États-Unis, puisque beaucoup de chercheurs aux États-Unis sont investis dans ce domaine de la recherche de traitement pour la trisomie 21. Et nous, Fondation Jérôme Lejeune en France, nous soutenons beaucoup de projets de recherche, nous finançons beaucoup de chercheurs américains. Et donc, il nous a paru cohérent de développer aussi la Fondation Jérôme Lejeune aux États-Unis même. Donc, c'est tout juste en train de se lancer maintenant. Du côté de la recherche, nous en France, si vous voulez, depuis des années, on a des programmes de recherche qu'on développe nous-mêmes et on a d'ailleurs déposé un brevet sur une molécule à potentiel thérapeutique. On lance là aussi un essai clinique sur une molécule et on soutient des essais cliniques dans plusieurs pays du monde parce que de fait la recherche avance de manière très très encourageante sur cette maladie.
Et donc vous pensez que d'ici quelques années la trisomie pourrait être soignée?
Oui, absolument, ça paraît fou. Si vous voulez, l'idée, ce n'est pas bien sûr d'enlever le chromosome en trop dans chacune des cellules du corps, on sait bien que ce n'est pas possible, mais par contre, l'idée, c'est d'inhiber les effets de ce chromosome en trop. C'est-à-dire que ce chromosome en trop implique la présence de gènes en quantité supplémentaire, puisque le gène en question porte 300 chromosomes, et ces chromosomes en quantité trop importante conduisent à la surexpression d'enzymes qui sont à l'origine, en particulier, de la déficience intellectuelle. Donc on cherche des inhibiteurs, des molécules qui vont inhiber la surexpression de ces enzymes. Et ça, en pharmacologie, c'est tout à fait classique. Donc on est en train de chercher ces molécules, de tester des molécules. Il faudra peut-être d'ailleurs un cocktail de molécules pour arriver à inhiber les effets de ce chromosome supplémentaire. La communauté scientifique aujourd'hui considère qu'on devrait avoir mis au point un traitement qui, en tout cas, améliorera les capacités cognitives des patients et les rendra autonomes. Ce qu'étaient les personnes trisomiques à 50 ans n'a rien à voir avec ce que sont aujourd'hui les personnes trisomiques, dont beaucoup ont quand même accès à une certaine autonomie, parlent, écrivent, vont à l'école, et puis ont surtout aussi beaucoup moins de difficultés médicales lourdes, puisqu'elles sont aujourd'hui prévenues, et puis aussi, quand elles sont là, elles sont mieux traitées.
Et vous faites aussi un suivi avec les familles qui ont des enfants trisomiques ?
Alors on a également, en l'occurrence, une personne qui conseille les familles qui ont besoin d'être aidées sur le plan scolaire et insertion professionnelle. Même si en France, en tout cas, il y a un système assez extraordinaire, hein, en principe, d'allocation et d'aide, ça peut être aussi un grand frein parce que les familles ne peuvent pas vraiment décider seules de ce qui est le meilleur comme école pour leur enfant. Elles n'ont pas forcément le choix. Leur enfant n'est pas forcément pris dans l'école qu'ils auraient souhaité. Et il faut les aider, les conseiller. Et puis, il faut aussi intervenir auprès de l'État sur sa politique en faveur des personnes handicapées. Que l'État aille plus loin, qu'il ouvre d'autres écoles ou d'autres classes, que les instituts aient suffisamment de moyens. Voilà, il y a tout ce travail à mener et sur lequel il y a encore des grands progrès à faire. Et c'est la même chose aussi pour l'insertion professionnelle. Elle est possible, mais les familles ont besoin d'être conseillées, d'être aidées, d'avoir des adresses, d'avoir des recommandations. Et il faut que ça vienne, bien sûr, de quelqu'un qui est très, très au fait de ce sujet-là.
On voit beaucoup, même dans les films, de plus en plus de personnes qui sont trisomiques. Donc, on dirait tout de même qu'il y a un peu plus une acceptation des personnes trisomiques. Est-ce que c'est la même chose en France ?
Alors écoutez, je dirais que c'est à double tranchant. Nous sommes dans une situation très paradoxale dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis et malheureusement encore plus en France. C'est-à-dire que avec le diagnostic prénatal, qu'on généralise de plus en plus, on fait peur malgré tout aux femmes enceintes et on fait passer l'idée que la trisomie 21, c'est quelque chose de très très dur, de très difficile. Et c'est vrai, ça l'est, certainement, mais il y a aussi beaucoup de parents qui témoignent de leur bonheur, de leur vie de famille qui peut être aussi très très heureuse. Et en tout cas, à travers ce diagnostic prénatal, comme il n'y a pas encore de traitement, on aboutit à une situation dans laquelle la plupart des enfants atteints de trisomie 21, diagnostiqués in utero, sont éliminés. En France, le taux est de 96% d'enfants éliminés parce qu'atteints de trisomie 21, quand ils sont diagnostiqués. Aux États-Unis, je sais que ce taux est également important. Il est moins qu'en France, mais enfin, il est quand même de plus de 90%. Donc vous voyez, on peut dire oui, on les accueille. C'est plus compliqué que ça. Alors c'est vrai, il y a eu aussi des films dans lesquels on a eu des héros atteints de trisomie 21. Il y a des figures emblématiques, il y a des acteurs qui sont connus. Mais on peut se demander si c'est pas pour se déculpabiliser de ce qui est fait en fait par ailleurs. Et aujourd'hui, l'État ou la société, enfin, n'est pas tellement dans l'idée d'accueillir, de chercher des traitements. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt, malheureusement, trop souvent, de ne pas assumer le fait d'accueillir une vie comme celle-ci. Et c'est ce dont souffrent énormément les personnes concernées et les familles. Elles se sentent, en fait, très rejetées.
Et quel est votre rôle, donc, au niveau des gouvernements pour aider tous ces enfants et les familles trisomiques ?
Alors, nous, pour favoriser cet accueil, d'abord, on fait de la recherche, ce qui est vraiment une manière de dire ne soyons pas dans l'optique de l'élimination, enfin de la sélection, du dépistage, de la traque. Soyons dans l'optique de la recherche d'un traitement et on y arrivera. C'est déjà une manière très importante d'aider à changer d'optique et changer de regard. On agit aussi en informant. On a des publications, on a un site internet sur lequel on informe de ces questions-là. On essaye de soulever le débat, d'ouvrir le débat et d'aider à la prise de conscience d'une situation qui est en fait une situation d'eugénisme, qui est une situation, quand on regarde les chiffres, c'est extrêmement choquant. Donc nous, on essaye de favoriser cette prise de conscience. Et puis, on travaille avec d'autres associations pour que les familles et les patients puissent prendre la parole, se faire connaître. Alors là, par exemple, on est partenaire d'une grande campagne de communication dont le thème est « Trisomique, et alors ?» Et alors ? Et c'est vrai, finalement, ces personnes trisomiques ont besoin d'être entendues et de faire savoir qu'elles sont là à part entière, qu'elles peuvent être aimées, appréciées, qu'elles ont besoin d'être entourées et accompagnées. Et cette campagne, si vous voulez, veut interpeller chacun sur cette question-là. Et moi alors ? Et moi, trisomique, quelle est ma place dans la société ? Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Et pourquoi est-ce que tu me rejettes ? Voilà, il s'agit d'interpeller.